VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Dans 10 minutes, Sahel Plus avec Claire Morin-Djibour. Mais faisons tout de suite le tour du monde de l'actualité. Au Nigeria, le président Goodluck Jonathan doit s'exprimer à la télévision ce soir sur la crise sécuritaire et entraîner le report de la présidentielle. Pendant ce temps, de nouveaux combats ont opposé ce mercredi même les islamistes de Boko Haram à l'armée tchadienne sur le sol nigérian. Jacques Aristide.
Les insurgés nigérians ont de nouveau attaqué ce mercredi matin la ville de Gamboru dans le nord-est du Nigeria, là où s'est positionnée l'armée tchadienne qui a pu repousser l'assaut d'après une source militaire tchadienne que cite l'AFP. Plusieurs éléments de Boko Haram ont été tués, selon la même source qui a également fait état d'un soldat tchadien tué et de 8 blessés. 3 des 14 véhicules des assaillants ont été détruits. Ils étaient aussi arrivés avec 2 blindés, mais le militaire tchadien a indiqué que les soldats de son pays étaient déjà préparés puisqu'ils étaient au courant d'une attaque imminente depuis la veille. Ce même mercredi, le chef de l'État nigérian doit répondre aux questions des journalistes et des téléspectateurs en direct à la télévision. La première intervention publique de Goodluck Jonathan depuis le report des élections 28 mars. Cette décision a été fustigée par l'opposition, la société civile et des pays occidentaux, dont les États-Unis.
Jacques Aristide, en Centrafrique, soulagement après la libération du ministre de la Jeunesse et des Sports, Armel Ningatoloum Sayo, enlevé depuis le 25 janvier dernier. Selon son frère Daniel Tomté Sayo, il se porte bien. Écoutons-le au micro de Félix Yepassis Zembrou.
Il se porte très bien, il jouit de toutes ses facultés morales, mentales, physiques. Il se porte bien. Là, présentement, nous tenons à remercier le ministre de la Sécurité publique, le Premier ministre et la présidente de la transition. Pour le nom de ses ravisseurs, il vous le dira lui-même. Ce que je sais, c'est que c'est le gouvernement qui a mené toutes les démarches, toutes les négociations pour que mon frère soit libéré. Aujourd'hui. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement a fait.
Voilà, c'était Daniel Tomté Sayo, frère du ministre de la Jeunesse et des Sports de la RCA. Lutte contre les FDLR dans l'est de la RDC. L'ONU, qui a déjà annoncé la suspension de son soutien aux forces gouvernementales, indique que des discussions sont en cours avec Kinshasa au sujet des généraux contestés. On écoute Martin Kobler, le patron de la mission onusienne en RDC.
On est en discussion avec le gouvernement sur la question de la politique de diligence par rapport aux droits de l'homme. Pour nous, c'est très important d'avoir une solution dans un esprit de constructivité et je n'ai aucun doute que les problèmes sont résolus parce que nous voulons pleinement, comme j'ai dit, soutenir les opérations. C'est le mandat et c'est aussi le désir de la population. Mais c'est une question qui est discutée entre la MONUSCO et le gouvernement. C'est pas discuté avec la presse et avec le gouvernement parce que nous voulons avoir qu'on a la résolution de ces problèmes qui émanent de la politique, du respect de la politique de diligence par rapport des droits de l'homme. C'est très important d'avoir, de partager les plans, d'avoir des mesures en place afin que la population civile ne souffre pas dans les opérations. C'est pour nous très important d'avoir des mesures en place, de superviser, de faire partie des opérations.
Martin Kobler, le patron de la mission onusienne en RDC. Puis nouveau drame de l'immigration clandestine vers l'Europe. Plus de 300 migrants partis de Libye ont été engloutis dans la Méditerranée. Déjà dimanche, 29 migrants sont morts de froid au large des côtes libyennes. Ils tentaient tous de regagner l'île italienne de Lampedusa. Idriss Fall a fait le point avec Florence Kim de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations à Genève.
On en est à 9 survivants et plus de 300 disparus, voire 350. Les 100 derniers qui étaient sur le dernier bateau sont perdus. Ils étaient partis de 15 kilomètres depuis les plages à côté de Tripoli en Libye. Les passeurs, mais ils ont envoyé plus de donc 4 bateaux à une tempête en mer dans des conditions en principe qui les dissuadent, du moins qui les limitent un petit peu à envoyer en général les bateaux. Cette fois-ci, on voit très bien qu'ils n'attendent même plus des conditions plus propices à l'envoi des bateaux.
D'autant que dimanche, une trentaine de migrants sont morts de froid aussi.
Oui, tout à fait. Oui, ça c'était avant-hier, effectivement. Donc on en est à 29 lundi. Et puis là, plus de 300 portés disparus, voire morts.
Voilà, c'était Florence Kim de l'OIM, jointe à Genève au Burundi. La société civile appelle le président Pierre Nkurunziza à annoncer qu'il ne cherchera pas à briguer un troisième mandat. C'est ce qu'indique l'AFP. Le collectif campagne citoyenne halte au troisième mandat affirme avoir déjà demandé au chef de l'État burundais de s'abstenir de se représenter. Mais leur lettre serait restée sans réponse. L'armée soudanaise accusée de viol massif au Darfour par Human Rights Watch, qui dénombre plus de 200 femmes et filles violées en 36 heures lors d'une attaque menée en octobre 2014 contre la ville de Tabit. L'ONG américaine qui parle de crimes contre l'humanité estime que le gouvernement soudanais devrait cesser de nier cette réalité et accorder immédiatement un accès à Tabit aux troupes de maintien de la paix et à des enquêteurs internationaux. L'ONU et l'UA devraient exiger la protection des civils et l'ouverture d'une enquête internationale, conclut Human Rights Watch. Au moins 71 personnes sont décédées de la peste depuis son apparition en septembre dernier à Madagascar, sur un total de 263 cas recensés, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé, qui s'inquiète également de l'arrivée prochaine de la saison des pluies. C'est ce que rapporte l'AFP. Et puis choléra dans le nord du Mozambique, l'épidémie qui a fait au moins 19 morts intervient suite aux inondations qui ravagent le pays depuis un mois. Au total, les autorités citées par l'AFP recensent 1702 cas diagnostiqués.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Rencontre cruciale ce mercredi entre la Grèce et ses créanciers européens. Athènes souhaite changer les conditions de la dette et l'allègement des mesures d'austérité imposées par l'Union européenne. Précisément, Athènes réclame des 18 pays du bloc Europe, de la BCE et du FMI un nouveau prêt et du temps additionnel pour négocier des changements aux mesures qui ont accompagné les plans de sauvetage consentis par l'Union. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, qui était aujourd'hui en conclave avec ses homologues européens à Bruxelles. Au Yémen, plusieurs pays occidentaux ont annoncé la fermeture de leurs ambassades du fait de la dégradation de la situation sécuritaire. Après la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France a aussi décidé de fermer sa mission diplomatique à Sanaa. Aujourd'hui, des miliciens chiites ont saisi 3 véhicules diplomatiques américains à l'aéroport de Sanaa. Peu après le départ de l'ambassadeur américain, rapporte l'AFP, citant des sources diplomatiques et aéroportières. La puissante milice chiite contrôle la capitale yéménite depuis septembre. Vendredi, elle a annoncé la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau conseil de 551 membres pour remplacer l'Assemblée. Un accord politique se fait encore attendre. Nucléaire iranien, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a appelé mercredi Téhéran et les grandes puissances à trouver un bon accord avant la date butoir fixée à fin mars pour un accord politique. Ensuite, les parties auront jusqu'au 1er juillet pour s'entendre sur les détails techniques du dit accord. Le chef de la diplomatie iranienne a eu des entretiens en début de semaine en marge de la conférence sur la sécurité à Munich. Téhéran affirme n'avoir que des objectifs pacifiques pour son programme nucléaire, mais les puissances mondiales, le groupe 5+1, comme on les appelle, veulent des méthodes de vérification sûres et un accord global avant la levée totale des sanctions économiques imposées à l'Iran. Et puis les négociations internationales sur le climat se poursuivaient ce mercredi à Genève en Suisse autour du texte du futur accord de Paris. Selon l'AFP, en 3 jours, ce document a plus que doublé de volume pour intégrer l'ensemble des positions. L'ONG Greenpeace se montre optimiste, voyant dans ce texte préliminaire le reflet d'une nouvelle dynamique et d'un esprit d'ouverture. La conférence de Genève réunit 195 pays. Les délégués ont jusqu'à vendredi, pour préparer une première version du projet d'accord. Et puis, ici aux États-Unis, 3 membres d'une même famille ont été tués en Caroline du Nord, dans l'est du pays. Y a-t-il un motif religieux derrière ce acte? C'est la question posée aujourd'hui par le leader d'une importante organisation musulmane, Nihad Awad, qui réclame une enquête policière. Les 3 victimes, un homme de 23 ans, son épouse âgée de 21 ans et sa belle-sœur de 19 ans, sont des musulmans.
cœur de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus, un magazine de 20 minutes consacré à la bande sahélo-saharienne. Aujourd'hui au sommaire, la vie et l'économie du Cameroun sont durement affectées par Boko Haram. Nouveau drame en Méditerranée, plus de 300 migrants ont disparu. On va au Mali, 11e édition du festival sur le Niger à Ségou.
Nous, on a un stand juste là-bas. On propose des produits énergétiques, c'est-à-dire des chauffoirs solaires, des foyers améliorés pour consommer beaucoup moins de bois.
Reportage de Kassim Traoré à suivre. Et nous terminerons par la page culture, plein feu sur Angélique Kidjo qui a remporté le Grammy Award du meilleur album musique du monde. Nous ouvrons l'émission avec les conséquences des attaques terroristes de Boko Haram. Les nombreuses incursions du groupe islamiste nigérian au Cameroun affectent le transport et le commerce dans la région camerounaise de l'extrême nord. Les attaques contre les véhicules sont souvent suivies de meurtres et d'enlèvements, découragent le mouvement des biens et des personnes dans cette région. Timothée Donangmaï a recueilli le témoignage d'Abouba Kari Abdoulaye, délégué régional du commerce de l'extrême nord camerounais.
Oui, effectivement, il y a eu quelques attaques de Boko Haram qui ont eu pour effet de réduire la circulation, notamment des véhicules transportant des personnes, réduisant ainsi la mobilité des personnes vers le département de Jérusalem. Néanmoins, en termes de biens, les véhicules, les camions continuent de circuler, souvent sous escorte, mais les mesures de sécurité sont prises pour permettre la circulation des biens en direction de cette zone-là, au point que jusque-là, on ne déplore pas des problèmes d'approvisionnement de manière très accentuée au niveau du département de Jérusalem.
Qu'en est-il du commerce avec le Nigeria qui était très intense avec l'extrême nord?
Oui, effectivement, vous savez que la secte Boko Haram a pour base l'état de Borno, qui est l'état frontalier de la région de l'extrême nord, avec lequel effectivement nous entretenons les échanges intenses soutenus et favoriser aussi bien la proximité géographique que les liens socio-culturels des populations. Avec donc l'inclusion de la secte Boko Haram dans cette partie de l'état du Nigeria, et plus tard, des effets, des attaques, des incursions dans notre région, ces échanges sont pratiquement à l'arrêt. Les populations ont pu se orienter plutôt vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment de la partie de la région du Nord, dont la frontière avec l'État du Niger ne connaît pas ce genre de problèmes. Si bien que la région du Nord ne connaît pas de problèmes d'approvisionnement par rapport aux produits qui viennent du Nigeria, mais les produits qui sortent de l'extrême nord via l'État de Borno ne sortent plus. Mais ce n'est pas une mauvaise situation pour la région de l'extrême nord parce que les produits qui sortaient, c'était surtout les produits ouvriers, ceux qui relevaient leur prix sur le marché avec les pénuries en souvent. Le fait donc que ces produits ne sortent pas, les rendent disponibles sur nos marchés avec des prix accessibles.
Aboubakari Abdoulaye, délégué régional du commerce de la région camerounaise de l'extrême nord, joint à Maroua. Encore un nouveau drame en mer Méditerranée. Le récit des survivants est glaçant. Alors que 29 migrants sont morts de froid en pleine tempête dimanche au large de la Libye, quelques 300 autres partis en même temps ont disparu en mer. Selon les témoignages recueillis par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations, 4 bateaux pneumatiques sont partis samedi d'une plage située à 15 km de Tripoli, en Libye, chacun chargé de plus d'une centaine de migrants venus d'Afrique subsaharienne, essentiellement des hommes, mais aussi des adolescents. Selon le récit de plusieurs survivants, un des bateaux a chaviré et l'autre s'est dégonflé. Tous les passagers sont morts noyés. Le HCR et l'OIM ont vivement dénoncé l'absence de scrupules des trafiquants ayant obligé les migrants à partir en dépit du mauvais temps qui sévissait déjà samedi et qui a tourné dimanche à la tempête avec des vagues de 8 mètres et des vents allant jusqu'à 120 km/h. Félix Yepassis Zemrou revient sur ces tragédies.
105 migrants, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, étaient partis de Libye à bord d'une embarcation de fortune. Ils voulaient traverser la Méditerranée dans l'espoir d'arriver sur l'île italienne de Lampedusa. Au départ des côtes libyennes, ils ont fait face à des vagues de 8 mètres, un vent violent et un froid glacial. Ils ont appelé au secours par téléphone satellite les gardes-côtes italiens qui sont revenus avec 29 cadavres. Des gens sont morts, non pas dans un naufrage, mais de froid. C'est horrifié sur Twitter Laura Boldrini, présidente de la Chambre des députés italiens. En 3 semaines, les gardes-côtes ont sauvé près de 3000 migrants, dont certains se trouvaient sur des navires à la dérive, abandonnés par les passeurs. Pour autant, l'hiver et le mauvais temps n'ont pas découragé ces candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. En 2014, ils étaient plus de 170 000 à débarquer en Italie.
2014 fut une année noire avec plus de 3200 décès en Méditerranée, mais 2015 pourrait être encore pire. Les autorités italiennes ont déjà enregistré 3528 en arrivée en janvier, près de 40% de plus qu'en janvier 2014. Faute de soutien européen, l'Italie a mis fin à la vaste opération de secours baptisée Mare Nostrum, engagée en octobre 2013 après une série de drames. Cette opération a cédé la place à Triton, une nouvelle opération mais nettement moins ambitieuse de contrôle des frontières. Du 4 au 9 février 2015, Ségou a abrité la 11e édition du festival sur le Niger. Une édition décevante en matière de programmation musicale, selon des habitués, mais la foire internationale, véritable lieu d'intégration régionale, a, elle, remporté l'adhésion du public. Des colloques sur la culture et l'emploi, ou ayant pour thème « Quelle industrie culturelle pour l'Afrique ?», ont été très suivis. Le résumé du festival sur le Niger de Ségou avec notre correspondant Kassim Traoré.
C'est par le colloque international que les activités de la 11e édition du festival sur le Niger ont débuté à Ségou, deuxième ville du Mali. Acteurs culturels, chercheurs et universitaires se sont retrouvés autour du thème « Culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique ?» Mahmoud Dafé, directeur du festival sur le Niger.
Nous avons voulu traiter ce thème parce qu'aujourd'hui, la question de fond dans notre pays, c'est la relance de l'économie nationale, mais surtout la reconstruction du tissu social. Donc nous allons travailler sur la problématique des industries culturelles. Non seulement travailler sur les modèles africains, mais aussi explorer les gisements d'emploi à travers ces secteurs. Non seulement pour célébrer les peuples, la diversité culturelle, la cohésion sociale, mais aussi créer une occasion pour un brassage des peuples du Mali, pour qu'on se retrouve autour de ce qui nous unit.
Ce colloque a permis à plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture, mais aussi des universités, de faire des contributions.
Le Mali a une richesse, disons, dans la musique. Il y a un foisonnement d'artistes musiciens, dans l'artisanat aussi. Donc je pense que le Mali gagnerait vraiment beaucoup à professionnaliser ce secteur, tant dans la formation, tant dans les moyens justement pour pouvoir faire décoller des petites entreprises dès le départ. Il faudrait que l'État s'y mette.
Nos pays sont en relation avec d'autres pays et il y a différents acteurs internationaux qui pèsent sur la vie économique et sociale dans nos différents États. Tout ce poids-là ne favorise pas toujours l'émergence d'une économie vraiment indépendante.
Après le colloque, la foire internationale de Ségou a ouvert ses portes en regroupant beaucoup d'artisans, d'artistes venus d'Afrique et du monde.
Quand je me suis arrêté au stand camerounais, il a fallu que la dame dise qu'elle est camerounaise pour que je fasse la différence avec les stands maliens. C'est la même chose avec les stands béninois. Je crois qu'au fond, l'Afrique est une.
Nous, on a un stand juste là-bas. On propose des produits énergétiques, c'est-à-dire des chauffoirs solaires, des foyers améliorés pour consommer beaucoup moins de bois. Donc, on supporte aussi des coopératives de femmes.
Du verre de karité, des confitures, du miel.
terre ou des produits agroalimentaires séchés.
Et l'impression première que j'ai eue, c'est que les artistes, les artisans font des efforts d'intégration africaine, d'unité africaine. Mais hélas, nous les politiques, nous ne suivons pas la marche de nos artistes et de nos artisans.
Les festivals sur le Niger donnent un élan à l'économie de la ville de Ségou. Cela s'explique par le fait que pendant les 3 jours, les gens se frottent bien les mains.
J'emploie 14 personnes pendant le festival. Hier soir, par exemple, on est resté jusqu'à 5 heures du matin pour vendre. On a beaucoup vendu. En termes de recettes, moi, je peux gagner 500 000 par jour. C'est une réalité. Même hier soir, je suis parti jusqu'à 430 000.
Il y a le festival, il y a le monde. On peut gagner un peu.
Pendant les 3 jours de festivité du festival, nous gagnons plus que même les 3 mois que nous gagnons.
Côté animation musicale, c'est la diva Oumou Sangaré qui était la tête d'affiche. Elle a remplacé Alpha Blondie qui ne voulait pas venir à cause de la situation sécuritaire au Mali. Bassebou Kouyaté et Sengoni étaient aussi de la fête. Le festival sur le plan musical cette année n'a pas comblé toutes les attentes. Mais le samedi national a été une réussite selon certains festivaliers.
Comme là, bon, on s'amuse bien et tout. Ça va quoi?
Il y a eu des éditions meilleures, mais ça va. Hier soir, j'étais très déçue, mais je me rattrape ce soir. Cœur Guy géant. Extraordinaire.
La 11e édition du festival sur le Niger s'est achevée avec les remises de diplômes aux 3 quartiers les plus propres de Ségou. Il faut rappeler que la 11e édition, qui devrait être une édition de rénovation, a été très difficile pour les organisateurs sur le plan musical. La programmation des artistes a posé d'énormes difficultés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM à Bamako. Délestage et coupe de courant sont les mots les mieux partagés dans beaucoup de pays africains. Qu'ils soient riches ou pauvres, personne n'est épargné. Les défis sont nombreux pour garder les maisons éclairées et les machines en fonctionnement sur le continent. Michel Joseph.
Selon les experts, l'Afrique subsaharienne a d'énormes ressources inexploitées de gaz, de pétrole, de charbon, d'énergie géothermique, solaire, hydraulique et éolienne. Pourtant, la Banque mondiale dit qu'un Africain sur 3 vit sans électricité. Stephen Njiru est le directeur de Geothermal Development Company du Kenya et conseiller en énergie du président de ce pays. Il dit que les gouvernements seuls ne peuvent changer cela.
Il y a eu des initiatives, des politiques, des lois. Il y a eu des mécanismes de régulation qui ont été mises en place. Mais il y a eu un énorme fossé et on a besoin de la participation du secteur privé pour renforcer les capacités.
Lors d'une récente rencontre à Washington sur l'électrification de l'Afrique, Njiru a souligné qu'il était temps d'accélérer la participation du secteur privé.
Nous aimerions nous asseoir ensemble et voir si nous pouvons surmonter ce problème parce que nous croyons qu'il y a un énorme marché là-bas. Nous croyons qu'il y a beaucoup à faire par le secteur privé.
Le Kenya est l'un des 5 premiers pays à lancer le partenariat Power Africa du président Barack Obama pour augmenter la capacité d'alimentation et d'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité est essentiel en cette ère, a souligné le chef de l'exécutif américain. Africa Power a mobilisé plus de 20 milliards de dollars du secteur privé pour les nouveaux projets d'électrification. Andrew Erkovitz est le coordinateur pour les initiatives d'électrification et de commerce en Afrique.
Solar Reserve, a US company based in Santa Monica, California.
Solar Reserve, une société américaine basée à Santa Monica, en Californie, vient de remporter un marché en Afrique du Sud pour construire un projet solaire des 100 MW concentrés. Nous avons un autre grand projet avec Global Gigawatt, une société américaine qui va être mise en service la semaine prochaine au Rwanda aussi. C'est 8,5 MW qui vont fournir de l'énergie à des milliers de gens.
Mais tandis que les experts de l'industrie disent que le marché de l'énergie en Afrique est prêt pour la participation du privé, les investisseurs avertissent qu'ils se heurtent à des obstacles, y compris les coûts parfois élevés, des négociations souvent trop longues et des risques potentiellement élevés.
Toutes mes excuses, il s'agissait bien sûr de Jean-Roger Bion et non de Michel Joseph. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102.4 FM, notre fréquence à Ouagadougou. La vedette béninoise Angélique Kidjo a remporté dimanche son second Grammy, récompensant le meilleur album de musique du monde pour Eve, qu'elle a dédié aux femmes d'Afrique. Cette 50e cérémonie des Grammy Awards, diffusée sur la chaîne CBS, s'est déroulée à Los Angeles. Un événement marqué par plusieurs prises de position d'artistes contre le racisme et la violence conjugale aux États-Unis. Jacques Aristide.
L'Afrique à l'honneur par la voix d'Angélique Kidjo. Après Jin Jin en 2007, la béninoise, l'une des voix les plus connues du continent africain, a donc de nouveau décroché le trophée pour le meilleur album dans la catégorie musique du monde. Une catégorie difficile où était également en compétition le chanteur brésilien vedette Sergio Mendes. Pour Eve, Angélique est retournée au Bénin pour capter les rythmes et harmonies des chœurs de femmes. Et en recevant son prix, c'était tout naturel pour elle de le dédier, dit-elle, aux femmes d'Afrique, à leur beauté et leur résilience. Angélique Kidjo.
Nous ne devons pas catégoriser la musique. Elle doit être tout simplement musique. Simple, clair, parce que c'est une langue universelle. Si nous pouvons faire de la musique classique avec le hip-hop, avec n'importe quel genre de musique, comment pouvons-nous continuer à dire que la diversité musicale doit être coupée en petits morceaux ?
Un autre Africain a été récompensé lors de ces Grammy Awards, le compositeur sud-africain Wouter Kellerman, pour le meilleur album de la musique New Age. Mais le grand vainqueur de la soirée n'est autre qu'un nouveau venu, le jeune chanteur anglais de 22 ans, Sam Smith, qui a décroché 4 prix. Son tube « Stay With Me » a notamment été sacré chanson de l'année.
Sam Smith.
Dear Lord, thank you so much. Thank you to the Academy. Thank you all. This is the best night of my life.
La cérémonie a également été marquée par les prises de position des artistes américains Beyoncé et Pharrell Williams contre les violences policières envers les Africains-Américains aux États-Unis. Pharrell et Beyoncé qui ont remporté 3 prix chacun.
I'd like to thank God. This has been such an incredible year.
Quant au chanteur Prince, en remettant le prix du meilleur album, il a lancé « Les albums comptent encore, comme les livres et les vies des Noirs ». Pour sa part, le président américain Barack Obama a profité de la tribune des Grammys pour appeler ses concitoyens à lutter contre le viol et la violence conjugale. Un message suivi par le témoignage de l'activiste et victime de violence conjugale, Brooke Axtell. Invité à partager son expérience par la chanteuse Katy Perry avant de chanter la pièce « By the Grace of God ». Et puis, comme il fallait peut-être s'y attendre, une nouvelle blague ratée de Kanye West, après un incident similaire en 2009. Le rappeur américain est monté sur scène sans y avoir été invité au moment de la remise du trophée de l'album de l'année au chanteur Beck. Une façon pour Kanye West de dire que ce n'est pas cet artiste qui a coiffé au poteau Beyoncé, Ed Sheeran, Pharrell Williams et Sam Smith qui aurait dû être primé.
C'est le plus, c'est fini pour aujourd'hui. Rediffusion de cette émission vendredi prochain à 18h à la réalisation Issia Kaba, à la technique Nashwan Kali, au micro Claire Morin-Gibour. Rendez-vous mercredi prochain, 18h temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec Angélique Kidjo et son titre Eva. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Wishing for a friend, someone to come.